un show capotin, dérisoire.
C'est la première fois que je dis ça de mon existence, mais je trouve vraiment que ce show-là manque de sérieux.
Même intelligent.
C'est drôle.
De quoi?
Ah ouais, pas mal.
Qu'est-ce qu'il dit, là?
Des fois.
Je sais rien.
Si vous aimez le premier album de Weezer, également appelé l'album bleu, rendez-vous sur vos services de streaming. Tout ce qui touche de près ou de loin cet album a été partagé dans une édition anniversaire qui est, comment dire, loadé comme un gun.
Combien d'heures de musique, Max?
C'est quoi, 3-4 heures facile?
Impressionnant comme résultat. Même les premières pratiques de Weezer dans un garage s'y retrouvent. Je veux revenir également rapidement sur le film dont je vous ai parlé juste avant la toune de Weezer, mon film de l'année 2024. The Substance, la substance, vous le retrouvez présentement sur une application de style Netflix qui s'appelle Mubi, M-U-B-I. Vous vous abonnez, vous vous désabonnez, puis vous l'avez gratis pendant 7 jours.
On n'a pas le choix, il y en a tellement, ils se multiplient. Puis, t'as-tu vu s'il y avait du choix d'autres films dessous? Il y a juste La Substance d'intéressant.
Bien, écoute, la réalisatrice de La Substance a fait des films avant, un long métrage, puis des courts-métrages, ils sont tous là, puis je me promets dans la prochaine semaine de tous les écouter.
Coralie Farja.
Voilà. Faut que j'apprenne son nom, parce qu'elle m'a jeté à terre, littéralement. Avant de se brancher avec Pierre-Aude, on regarde les nombreux problèmes de circulation sous la pluie à Québec.
Oui, accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, évidemment, c'est compliqué. C'est vraiment pas catastrophique, là, mais quand même prévoir un petit peu d'attente. Sinon, sur la 20, direction ouest, avant le chemin des îles jusqu'à Taniata, il y a aussi un ralentissement. Ça non plus, c'est pas une surprise. Là, c'est très, très problématique présentement. C'est vraiment sur la capitale. Dans les deux directions, il y a des problèmes. Direction est, un peu après le boulevard Neuvial, vous allez sentir un ralentissement qui va perdurer jusqu'à la hauteur de Pierre-Bertrand, puis direction ouest, c'est entre, je vous dirais, le boulevard Henri-Bourassa jusqu'à un petit peu l'autre bord de Laurentienne.
J'ai hâte de lui poser la question parce qu'il suit pas à pas le Canadien dans les bons comme dans les mauvais moments. Est-ce qu'il s'impose à lui-même un entraînement sévère et punitif? Quand Martin Saint-Louis ordonne la même chose à ses joueurs, on va aller rejoindre Pierre-Aude pour aller voir s'il a fait du patin aujourd'hui. Salut Pierre!
Non, j'ai pas fait du patin. Il y en a qui me disent que j'en fais beaucoup pendant les matchs.
Wow!
Ben là, quand le Canadien perd 8-2, il faut patiner un peu. Pas le choix, hein, Pierre?
Non, j'en ai pas fait. Bonjour Denis, bonjour Véro, bonjour Max, bonjour à tout le monde. C'est drôle parce que je me disais, Denis va comprendre, avec, comme partisan des Bruins, il faudrait que... Moi, j'aime ça parfois, tu sais, imager la radio, puis là... Mais j'ai pas ce moyen technique, en fait, il faudrait peut-être que je voie avec d'autres pour voir si c'est faisable, mais j'aurais voulu qu'on trouve, tu sais, un solo de violoncelle en mineur.
Oui, quelque chose de triste à pleurer, là.
Tu sais, là, où c'est, ce sont juste des notes, mais tu sais, avec un fond d'accord mineur, et, tu sais, des coups d'archet, là. Je me suis dit, probablement que ça donnerait un beau fond sonore à l'état d'esprit des partisans des deux équipes. Parce qu'écoute, l'affiche est la même pour les deux équipes.
Oui.
Et la façon dont l'équipe arrive à cette fiche est la même.
Les deux seules équipes cette semaine qui ont perdu 8-2 dans la Ligue nationale de hockey, c'est les Bruins hier et le Canadien mardi.
Voilà. T'as tout compris. Alors, écoute, on va se passer du violoncelle parce que en plus, il pleut chez vous, nous autres, pas encore. Oui. Fait que t'imagines son bel violoncelle.
Non, ça va être déprimant, là.
Ça va être très déprimant. Alors, vous saisissez au moins le portrait.
Ah oui.
Alors, non, mais pas d'entraînement punitif. Écoute, c'est rare. On a fait un vol commercial ce matin, là, vol régulier, parce que l'équipe a continué vers Pittsburgh, mm-hmm. ce qui n'était pas le cas pour l'équipe de RDS. Alors, on a fait une très belle envolée, un petit peu retardée à Washington. Je pense qu'il y avait un peu de va-et-vient autour du Capitole, autour de la Maison-Blanche.
Hein.
Et puis, quand tu décolles de Reagan, qui est juste à côté, je pense qu'on a été un petit peu retardé, peut-être 20 minutes au sol. Et je fais une parenthèse parce que pour ceux qui sont déjà allés à Washington et pour ceux qui, en plus, sont passionnés d'aviation ou qui ont été un peu estomaqués de voir l'approche, ce matin, à cause des vents et de la météo, c'était l'approche qu'on dit Potomac.
Okay.
Alors, l'approche Potomac, c'est... nous, on a décollé de la piste 1, donc je présume que c'est la réciproque, c'est la piste 19. C'est que les avions arrivent au-dessus du Potomac, mais pour éviter les institutions, à la toute dernière seconde. Écoute, t'es en bas de 1000 pieds. Là. L'avion fait un super banking à sa droite.
Wow.
Et le train est déjà descendu. T'es plein volet, train descendu. Tu fais un beau banking à droite, peut-être. Je sais pas. Il faudrait qu'il y ait des pilotes, peut-être, qui pourraient dire si c'est 400 pieds, 500 pieds, sol. Et c'est un super banking. Alors, on avait un beau spectacle aussi, aussi en même temps ce matin.
Quand un entraîneur comme Martin Saint-Louis fait patiner ses gars pendant une heure, c'est des adultes, c'est des joueurs qui ont des agents, puis des millionnaires, je vais tout sortir les clichés, Pierre, mais quand tu fais quelque chose comme ça, est-ce que tu le fais pour les joueurs ou tu le fais pour les journalistes et les critiques? À qui tu veux passer un message?
Oh, ben c'est une bonne question et elle est très légitime. Mais je te dirais que si je me transpose dans la peau de Martin Saint-Louis, et je me base aussi, Denis, sur des échanges qu'on a avec l'entraîneur, et pas des échanges privilégiés. Là. Nous, comme diffuseurs, comme détenteurs de droits, on a accès à un entretien pour nous avec l'entraîneur. Et Marc et moi, on s'est prévalu de notre privilège à Washington hier matin. Et je te dirais que... l'entraîneur ne se cache pas, l'entraîneur ne se balance pas de l'humeur du public. Au contraire, on est très conscient, surtout à Montréal, que ça fait partie de l'équation. Puis Martin Saint-Louis, ça n'est pas caché après la déconfiture de mardi soir et encore celle d'hier. Mais c'est pas pour ça. Rendu à un certain moment, tu dois passer un message de façon différente. Puis je suis convaincu que c'est pas évident pour lui parce que c'est contre nature dans le cas de Martin Saint-Louis. Je pense que Martin Saint-Louis se reconnaît encore beaucoup dans les joueurs qu'il dirige parce que ça fait pas si longtemps qu'il était dans la même situation qu'eux. Et même s'il a souvent joué pour de bonnes équipes, autant à Tampa qu'à New York, ça n'a pas été que des roses, ça n'a pas été juste un bouquet de roses, non. Sa carrière. Alors je suis convaincu qu'il est capable de se transposer là. Mais il vient un certain moment où, et je sais que ça fait un peu rétrograde pour certains, je sais que ça fait un peu militaire.
Ça fait vieux coach, oui, effectivement.
Ça fait Scotty Bowman, oui, oui. ça fait Jacques Martin. J'en ai déjà vu, écoute, un éreintant exercice comme celui-là, commandé par Jacques Martin quand il était entraîneur du Canadien. Mais à un certain moment donné, ça fait partie aussi de ce à quoi s'attendent les joueurs. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé après. La plupart avaient perdu le souffle. Mais Josh Anderson, qui ne s'est pas caché, ne s'est pas défilé, il dit « Écoute, on savait que ça s'en venait, c'est tout ce qu'on méritait. » Tu sais ce que Jacques Demers a déjà fait?
Quoi?
Jacques Demers, quand il était entraîneur du Canadien, lui avait trouvé... avait été, pour moi, innovateur, parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Demers, lui, était à ce moment-là assez furieux, je dirais, de la complaisance de ses joueurs. Okay. C'était sa perception, OK? Disons ça comme ça. C'était sa perception que ses joueurs étaient dans une forme de complaisance, que ses joueurs étaient dans une forme de vitesse de croisière. Martin Saint-Louis disait tantôt quoi? À un moment donné, il faut sentir l'urgence, là. Il faut. Alors, Jacques sentait ça. Et sais-tu qu'est-ce que lui avait fait? Il avait commandé un entraînement à 7 heures le matin.
Oh.
Et son raisonnement était, vous là, vous avez des salaires nettement supérieurs à la moyenne, vous êtes des privilégiés dans la vie, même si vous gagnez ou perdez, vos salaires sont garantis, votre revenu, votre confort dans la vie n'est pas lié à l'effort que vous devez déployer et au rendement surtout que vous devez afficher de façon constante.
Je viens de voir passer une couple de joueurs dans ma tête qui ont été coachés par Jacques Demers à cette époque-là. Il y en a quelques-uns qui se couchaient à 7 heures du matin. Là.
Ben, écoute, ça, je ne sais pas. T'en sais peut-être plus que moi. j'ai jamais été, moi, le champion d'espionner la vie nocturne des joueurs. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent faire. Mais Demers avait dit, je vais vous montrer, moi, ce que le monde ordinaire vit quotidiennement pour 10%. Pour 5%, pour 1% de vos revenus. Je vais vous montrer quel est le quotidien des gens.
Ils se lèvent à 7 heures du matin et ils travaillent fort.
Non, ils ne se lèvent pas à 7. Ils se lèvent avant 7. Puis ils sont pris dans la circulation. Puis ils traversent les ponts. Puis ils habillent les petits. Puis ils s'en vont travailler. Puis le couple travaille. Puis on laisse les petits quelque part. Puis il faut être à l'heure au bureau. Puis il faut être capable de, de livrer ce pourquoi on a un salaire. Et j'avais trouvé ça, au début, je me suis dit « wow ». Mais j'avais, avec le recul, je m'étais dit « ouais, c'est une bonne... » En fait, c'est du jeu de mœurs, tu comprends? Tu ne peux pas faire ça parce que c'est écrit dans un livre. Mm-hmm. Tu fais ça comme entraîneur parce que tu es un Jacques Demers. Et Demers avait cru que c'était la bonne façon de confronter ses joueurs à l'époque avec ce qu'il croyait être un manque d'engagement. Tiens, je vais le dire comme ça. Engagement, j'aime le terme. C'est un peu large, mais c'est ça. Alors, donc, je ne me rappelle plus si ça avait donné particulièrement des résultats à court, moyen et long terme. Mais je me rappelle que Demers avait choisi ce punitif-là, entre guillemets, pour les joueurs.
Je pense qu'on va s'entendre que ça a été une erreur de parler de mix au début de la saison. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée des attentes. Puis ce que ça fait, c'est que là, les premiers qu'on critique, c'est les joueurs. Mais après ça, maintenant, on se met à critiquer. Puis quand je dis « on », je parle de certains partisans. Est-ce que c'est rendu une majorité? Je sais pas. Mais...
C'est le cycle de l'amateur de sport.
C'est ça. Puis déjà, il y en a qui réclament la tête de Martin Saint-Louis. Dans une reconstruction... À quel moment le coach devient imputable? C'est normal de perdre dans un processus de reconstruction. Fait qu'à partir de quel moment le poste de Martin Saint-Louis va être réellement en danger, Pierre?
Oh boy, c'est une bonne question, Max, mais j'aimerais ça être Kent Hughes ou Jeff Gorton pour te répondre, parce qu'eux ont certainement leur grille d'analyse. En fait, quand je dis grille d'analyse au sens figuré, là, c'est pas nécessairement un papier sacro-saint.
Genre jusqu'où ils se rendent, là.
Exactement, jusqu'où ils se rendent, mais... En même temps, il faut que tu laisses un peu de lousse à ton entraîneur dans ce contexte-là. À Boston, c'est pas pareil. Je ne dis pas que Montgomery n'est pas traité injustement, parce que la grogne est beaucoup plus forte à Boston, évidemment. Là.
Oh oui.
Mais Montgomery, lui, a dit... Montgomery a déjà accompli des choses avec cette équipe-là. Martin Saint-Louis n'a encore rien accompli avec le Canadien. Mais à cause du contexte qui est très différent. Alors donc, je ne sais pas vraiment, j'ai pas de réponse scientifique à te donner. Par contre, moi, ce que j'aurais tendance à te répondre, Max, c'est laissons à l'entraîneur aller vers un changement de cap, un changement d'attitude, un changement de tolérance avec son équipe. Donnons-lui encore du temps. Est-ce que c'est... En semaine, en mois, en année, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais tendance à te dire, laissons-lui du temps. Il nous a longtemps parlé hier avec une rationnelle extraordinaire. Parce qu'il dit, écoute, l'effondrement collectif au hockey, plus au hockey que n'importe quel autre sport, vient souvent, parce qu'il dit, pour marquer un but, et je l'ai trouvé tellement, tellement brillant dans son approche, pour marquer un but, il dit, vous montrez les reprises, vous autres, à la télé, c'est au moins 3 ou 4 moments qui amènent à un but. Sauf un revirement, gracieuseté de l'adversaire, ou un revirement qui est provoqué, disons, à la ligne bleue de la zone offensive. Puis là, tu as une échappée, puis le marqueur va marquer. Mais si c'est un but qui est fabriqué, c'est au moins 3 moments, 4 moments. Des fois, ça prend 10 segments impliquant des joueurs pour fabriquer la toile, pour tisser la toile. Un revirement, une mauvaise décision, une mauvaise exécution, une mauvaise lecture du jeu. Bang! Ça donne un but à l'adversaire. Il dit, c'est complètement déséquilibré, mais c'est comme ça. Mm-hmm. Puis il dit, quand tu as la deuxième plus jeune équipe dans la Ligue nationale, c'est pas mal plus normal que tes jeunes joueurs n'ont pas encore non seulement compris ça, mais ils n'ont pas maîtrisé ça. Ils n'ont pas maîtrisé la reconnaissance, la précarité de ce que je viens de vous décrire. Ce que je viens de vous décrire, c'est la vision de l'entraîneur. Puis essayez de me dire qu'il n'y a pas raison. Alors, donc, tu dois encore lui donner les coups des franges pour être capable d'amener ces jeunes joueurs à assimiler ça et à réagir en conséquence.
C'est pas le même contexte, Pierre, mettons, que les Leafs cette année qui perdraient pendant 2 mois. Là, le coach va perdre sa job, c'est pratiquement instantané. Montgomery, comme c'est là, va perdre sa job avant Martin Saint-Louis parce que la pression va être là, puis les Bruins étaient habitués, bon, peut-être des saisons gonflées, mais les dernières années, les standards avaient monté par rapport aux Bruins.
Il y avait quelque chose,
oui. Mais c'est sûr, Denis, et en plus, c'est parce que Jim Montgomery ne peut pas me parler comme ça, comme coach des Bruins. Parce qu'ils ont été là.
Ouais.
Ils n'ont pas, en principe, à bâtir ce que je viens de te dire. Ceci dit, Max, pour ajouter à ta question et à ta réflexion, c'est que même Martin Saint-Louis dit, mais là, on n'a plus un an à attendre. On n'est plus en mode, ben on va vous donner encore un an ou deux pour comprendre ça, les tout-petits.
Il faut que ça avance, il faut que les joueurs se développent. Moi, ma réponse, ça serait un peu ça, de ma vision, comment je le vois, c'est que si le développement arrête, ben c'est à partir de là que Martin Saint-Louis doit peut-être devenir imputable.
Ben, c'est-à-dire que de toute façon, tu es toujours imputable comme entraîneur dans la Ligue nationale. C'est vieux comme le monde. Ça a toujours été comme ça. Et puis, le premier sacrifié, c'est le coach. Hein. C'est pas le directeur général, puis c'est pas un joueur. Le joueur, il a son contrat garanti, puis bon. Alors, c'est évident qu'il le sait très bien, comme les 31 autres entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale de hockey. Cela dit, je pense que pour l'instant, on n'en est pas au mode de placer l'entraîneur sur un siège éjectable. Il le sait qu'il est imputable. Lui, ce qu'il veut accomplir le plus vite possible, c'est que ses joueurs comprennent leur niveau d'imputabilité, eux aussi, dans l'équation que je viens de te donner, mais en tenant compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui... écoute, je prépare mes notes à chaque match, puis je m'assure de voir si l'âge des joueurs est bon. Je m'étonne toujours de voir les 20 ans, les 21 ans, les 22 ans chez le Canadien, un capitaine qui a 23, tu sais, ou 24. C'est pas une excuse. Je n'ai pas à défendre le Canadien de Montréal. Moi, je suis imputable à RDS puis à Bell Media. Mais ça fait 35 ans que je vois les choses et je me dis que le problème n'est pas maintenant dans un changement d'entraîneur.
Pour tout ce qui va mal chez le Canadien, Cole Caulfield score à toutes les games. Y crois-tu à la saison de 50 buts de Cole Caulfield? On la voyait peut-être sur le radar, mais clairement pas cette année. Mais bonne game, mauvaise game, Cole Caulfield va tirer un laser puis la rondelle va se ramasser dans le but. Y a un naturel qui ne ment pas puis il est sur une séquence extraordinaire. C'est une séquence qui peut durer toute la saison, d'après toi? Peux-tu pogner le 50 là?
Ben écoute, s'il réussit à continuer, même dans le contexte actuel, pourquoi pas? Parce que là, Ben enfin, il faut aussi parler de son capitaine. Je pense que le duo ensemble connaît un rythme vraiment, mais vraiment au-delà des attentes dans le contexte actuel. Là, je répète, ce que je vois de Caulfield par rapport, disons, à la saison dernière et ce qu'il a ajouté, c'est qu'il a beaucoup plus maintenant de zones de frappe. Tu sais, avant, c'était assez prévisible. Si tu regardes dans la zone offensive, il est souvent placé à gauche. À un moment donné, il baisse le genou droit, puis bang, il dégaine. Okay? Là, on est dans un contexte où on l'a vu, même dans les matchs préparatoires, il a commencé à nous le montrer. On l'a vu près du filet. Parfois, c'est un but à la Steve Shott, pas un très beau but. Il y a un retour bébête qui arrive sur sa lame de bâton, bang. Un but. Hier, il a marqué de l'autre côté, du côté naturel de Nick Suzuki. Donc, du côté droit de la zone offensive dans le cercle des mises en jeu. Alors, ta question, elle est bonne et c'est moins farfelu, cet objectif-là, Denis, dans la mesure où il a semblé élargir là, ses points de tir. Et c'est un peu ce que... Ben pas un peu, c'est ce que Martin Saint-Louis a essayé hier. Ça n'a pas été du tout concluant. On verra s'il change d'opinion demain. Mais ce qu'il a voulu faire hier, c'est dire, ben écoutez, je vais essayer des duos plutôt que des trios. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, ce que ça donne, c'est qu'en fait, son premier duo, malgré les déboires, continue à produire. Mais l'autre problème aussi, puis je sais que là, on peut s'en aller dans toutes les directions, c'est que tu n'as pas de deuxième trio avec le Canadien. Tu devrais en avoir un selon les attentes qu'on a placées. Tu parlais tantôt, est-ce qu'on a mis les attentes trop élevées, Denis? Ben, je ne sais pas si c'est trop élevé. Moi, je crois encore que Kirby Dach a tout ce qu'il faut pour être un brillant joueur dans la Ligue nationale. On voit tout le contraire présentement.
Ouais,
je pensais qu'Alex Newhook était une acquisition payante pour le Canadien, qui n'a pas coûté trop cher. Je vois un Newhook désintéressé, complètement sorti des zones, des situations offensives présentement. Donc, tu te rabats sur un troisième trio et tu dois le traiter comme un deuxième. Puis ça, c'est le trio qui est irréprochable depuis le début de la saison. Celui qui est pivoté par Evans avec Anderson et Gallagher. Mais tu sais que c'est un trio qui va te donner 14 minutes, Max et Denis et Véro, parce que Brandon Gallagher ne peut pas prendre plus que 15 minutes. Puis Jake Evans n'a pas, en principe, les qualités offensives qu'un Kirby Dack devrait avoir et devrait démontrer. On peut trouver des zones d'explication maintenant si on s'arrête à des joueurs individuellement ou à des combinaisons de trios. Alors, c'est très complexe. Je préfère mon rôle de descripteur et de chroniqueur avec vous le vendredi qu'être dans la chaise de Martin Saint-Louis.
Je le dis souvent ici en parlant d'actualité, on est bien dans nos chaises de radio à spéculer, à juger. La personne qui colle les shots en politique a pas mal plus d'ouvrages que nous autres. C'est un peu ça pareil. Hein?
Ben, c'est un peu ça pareil. Et puis, Denis, c'est la beauté du sport et c'est en même temps la cruauté du sport. Tout est relatif. Il y a un génie qui a dit ça bien avant nous, il y a des années, que tout est relatif. Est-ce que tu penses que les Yankees de New York ont eu une bonne saison? Est-ce que tu penses que tout devrait pointer vers les Yankees en disant « Wow! » Qu'est-ce qu'on va retenir des Yankees? Et on va retenir qu'ils ont été sortis en 5 matchs, puis ça a failli être en 4. Puis qu'en plus, ils menaient le match ultime, 2 erreurs bêtes. On va retenir que Judge n'a pas frappé, que ses coéquipiers n'ont pas frappé.
On va retenir que les gauchos dans les estrades qui se mêlent de la game, on devrait les barrer à vie, Pierre.
Oui, bien, tant mieux s'ils ont été sortis Manu Militari.
Ah oui.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable le sport. Mais c'est ça aussi qui génère l'économie du sport. C'est ça qui fait qu'on achète des chandails, qui fait qu'on y va, c'est ça qui fait qu'on s'abonne à ceci, à cela. Mais ça a été une grande confrontation, celle des Dodgers et des Yankees, là où en est le baseball. Le baseball avait besoin, d'après moi, de ce levier-là. On avait besoin de découvrir des Freeman. Otani a donné une saison exceptionnelle, mais les Yankees aussi ont connu une incroyable saison. Bon, tu vas me dire, ça totalise à peu près 800 millions de masse salariale, mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on retient à New York? Bougonne, parce qu'on est déçus et on trouve ça cruel. Alors.
Pierre, pour faire changement, tu as une fin de semaine drôlement chargée. C'est le Grand Prix du Brésil. Et là, j'ai pas de recherchiste.
Denis, il y a des questions.
Oui, bien, écoute, j'ai une question à deux volets, puis je suis vraiment fier de ma question. Tu vas peut-être me revirer dans mes shorts, mais c'est pas grave. Je vais quand même me lancer dans...
Je dis toujours qu'il n'y a jamais de mauvaise question.
Il y a juste du mauvais monde.
Non, mais il y a juste du mauvais monde. Et le mauvais monde, souvent, pense que c'est une mauvaise question et donne une stupide réponse. J'essaie de ne pas faire partie de ce clan-là.
C'est bien résumé. Alors, Pierre, une question en deux temps. En fin de semaine, c'est le Grand Prix du Brésil. Max Verstappen part avec 5 places de pénalité dimanche. Question numéro 1, pourquoi? Question numéro 2, la situation qu'on crée avec cette pénalité-là, est-ce que ça relance la course au championnat ou ça la scrappe?
Ben, malheureusement, écoute,
ma question sur 10, mettons, juste avant de répondre. Là,
elle est excellente, la question. Puis, regarde, si je mettais mon chapeau de vice-président marketing de la F1 ou de RDS ou de TSN ou peu importe où vous regardez la F1, je te dirais non, rien est réglé, tout est encore
tout
jouable.
Tout est possible.
Et tout est possible, et ainsi de suite. Le problème avec la course au titre, c'est qu'elle n'est plus seulement Lando Norris et Max Verstappen. Ferrari a fait un trop gros pas en avant au cours des derniers Grands Prix.
Okay.
Et voilà maintenant que Ferrari vient jouer les troubles fêtes. Et donc, tu as un Carlos Sainz qui a gagné la semaine dernière. Je comprends que Norris a fait le maximum derrière Sainz. Il reste quand même que les points sont allés du côté de Carlos Sainz. Alors, j'ai peur que ce soit un petit peu trop tard pour combler l'écart. Mais encore là, il peut se passer n'importe quoi. Mais ce qu'il faudrait, ce serait vraiment une domination en fin de semaine de Norris. Et quand je dis domination, il y a quand même 8 points de la victoire pour la course sprint. Tu as 25 points pour la course, puis tu as le point boni pour le tour le plus rapide. Fais le calcul, c'est assez facile. Tu as 34 points de disponibles. Si jamais le malheur tombe, le ciel tombe sur la tête de Verstappen et de Red Bull, ben à ce moment-là, bien sûr qu'on rediscute la semaine prochaine puis on ne parle plus de la même chose, tu comprends?
Oui.
Mais il n'y a rien qui pointe dans cette direction-là. Verstappen, malgré le recul et l'avancée des autres, il termine ses courses. Il réussit à les terminer, même souvent et de son propre aveu, mieux que ce qu'il pensait. Alors donc, on verra, mais si cette tendance-là se maintient avec les 4 Grands Prix qui restent, ça se peut qu'il soit un petit peu tard pour Lando Norris, qui devra, lui et son écurie, apprendre. Bon, les pénalités, écoute, là, on avait déjà choisi d'encaisser le coup chez Red Bull. Les pénalités qui sont venues du dernier Grand Prix.
C'est quoi, on change le moteur, c'est-tu ça?
Oui, il y a des composantes qu'on change. Okay. Mais encore là, tu en viens qu'à choisir ton circuit. Interlagos, moi j'adore ce petit circuit, c'est 4 km et des poussières. En fait, c'est 10 virages, Denis, mais les derniers virages, c'est déjà en pleine réaccélération. C'est un circuit qui est court, mais qui est formidable. C'est la grande courbe en montée. Tu vas chercher le point de corde à l'entrée des puits. Et puis ensuite, tu te retrouves en pleine accélération, puis au freinage, un petit peu en montée. C'est un tire-bouchon gauche-droite qui t'attend, ce qu'on appelle les S de Senna. Mmh. Alors, c'est un circuit où c'est possible de dépasser. C'est pour ça que souvent, les pilotes vont accepter, les pilotes et les écuries, vont accepter d'emblée les pénalités pour changement de composante au groupe propulseur.
Parce que si tu as l'engin, tu as moyen d'aller rattraper ces places-là pendant la course.
Là où tu peux dépasser. Tu sais, tu ne ferais pas ça à Singapour, par exemple. Tu comprends?
Oui.
Mais à Spa-Francorchamps, sur 7 km, tu vas dire, bon, mais c'est très possible qu'on puisse le faire.
Ça fait partie de la stratégie, je comprends.
Ben, ça fait partie de la... ça fait partie de la façon de... pas de contourner le règlement, de violer le règlement. Mais tu dis, quand je vais violer le règlement, parce que les écuries disent, le règlement, il n'y a pas d'allure, ça n'a aucun sens qu'on nous restreigne à ce petit nombre de groupes propulseurs dans une saison. Alors, les écuries disent, c'est sûr qu'on va violer le règlement. On va essayer de choisir où on va le violer, parce qu'on pense qu'on va être en position de minimiser l'impact de ce qu'on va voir. Alors donc, attendons ce que ça va donner en fin de semaine. Verstappen a déjà été brillant, mais si tu veux que je t'ajoute un petit ingrédient, tu sais, une petite épice là, dans la muse-gueule, les prévisions météo, et puis écoute, j'ai dit 10 virages tantôt, là, j'ai arrondi. Officiellement, c'est 14 virages, mais tu sais, 12, 13, 14, même 11, 12, 13, 14, moi, dans ma tête, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment 10 virages. À partir du 11e, t'en as 4 qui ont officiellement leur numéro, mais t'es à fond complètement. Okay. Donc, c'est pas vraiment des virages. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que la météo est exécrable, particulièrement pour dimanche. Et aujourd'hui, il y avait des vents très forts pour la qualif de la course sprint. Qualif dominé d'ailleurs par les deux McLaren, Piastri et Norris. Demain, possibilité de pluie encore plus forte et pour la course sprint demain matin et pour la qualif. Et très forte probabilité de pluie forte, genre averse orage pour dimanche, là, autour de 75% de probabilité. Alors, pour ceux qui aiment ajouter un petit élément aléatoire, là, vous en avez peut-être un ou fort probablement un pour dimanche.
T'es allé à Washington, t'as-tu juste fait un aller-retour ou t'as eu le temps de tâter le terrain un peu à quelques jours d'une élection où ça sent le chauffer pas mal aux États-Unis?
Oui, ça sent le chauffer. Mais je suis pas sûr que c'est la meilleure place à être pour sentir, tâter le pouls. Ouais, pas sûr, Denis. C'est sûr que, écoute, en faisant le très long trajet de Dulles jusqu'à notre hôtel, tout près de la Maison-Blanche, c'est sûr qu'à un certain moment, là, t'approches du Potomac, et puis là, après ça, tu commences à voir les institutions, puis t'as le Pentagone d'un côté, puis t'as l'obélisque de l'autre côté, puis là, tu vois le Capitole, puis là, tu vois la Maison-Blanche. J'en ai des frissons juste à vous parler. Tu te dis... En fait, ce qu'on a senti, Denis, c'est peut-être plus l'importance de ce que la planète va vivre mardi prochain. Et non pas avoir le pouls disons, de la tendance du vote.
Je comprends.
Washington n'est peut-être pas le meilleur endroit pour y être. J'aurais peut-être pu être dans une ville baromètre. Tu sais, Marc disait souvent comment Columbus, en Ohio, parce qu'il a habité là, lui, pendant des années, en jouant pour les Blue Jackets, il a dit, c'est vraiment... Ça, c'est un vrai baromètre.
OK.
Un vrai, vrai baromètre. Bon, il y a d'autres États baromètres. Je laisse ça aux experts. On parle beaucoup souvent de la Pennsylvanie, oui, de ci, oui. Et ça. Mais moi, personnellement, je vais te le dire plus au sens large. J'étais comme un peu détaché, mais en même temps, je me suis retrouvé comme au-dessus de Twitter, là. Parce que là, on va faire une indigestion d'Elon Musk. Là, puis de
oh mon Dieu! Hein?
C'est une belle place pour flotter, ça, au-dessus de Twitter. En passant, vous pouvez l'essayer. Là. C'est le fun. C'est le fun.
Écoute, Denis, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je te le dis, je continue à aller là pour voir ce que les équipes d'F1 disent sur le terrain.
Ah, c'est un bon fil de presse.
Ben, c'en est même plus un, Véro. Je sais pas si ça a part avec les algorithmes. Là, mais tu viens que tu n'es plus capable. Mais là, je me suis senti comme un peu en dehors de ça. Mm. Tu passes devant les institutions, et que tu le veuilles ou non, ça demeure les institutions les plus imposantes au monde, ou parmi les plus imposantes au monde. Et c'est comme si Marc et moi, Maguire, Dubé, la gang du fond de l'autobus, là, on a commis un silence, puis on s'est dit « wow ». Regardons nos montres, là, on est à 4 jours ou à 5 jours, mm-hmm. et le monde va prendre quelle tournure à partir de mardi, et on y est, là, c'est ici que, et particulièrement en janvier, après le discours d'inauguration.
Ça ferait peut-être du bien aux candidats d'aller faire la même tournée que vous avez faite pour se rappeler que c'est important, puis qu'il y a des institutions, puis l'importance de la démocratie.
Puis même être au-dessus de Twitter, là, ça peut marcher, ça.
Ben, écoute, j'aime ce que tu dis, puis vraiment, j'ai réalisé, surtout aujourd'hui, le hasard a voulu qu'on soit là, mm-hmm. À ce moment-là, quelques jours avant. Puis je comprends que c'est pas là que l'élection se joue, mais le résultat de l'élection va se jouer là maintenant pour les années à venir, et ça va avoir un impact incroyable. Alors, j'étais au fond content de l'avoir vécu, et tu as tout à fait raison, Véro et Denis, peut-être nos politiciens devraient faire ça de temps en temps. Ou aller survoler ça d'en haut, c'est encore mieux.
Parce que là, je vais ressortir mon latin à deux scènes, là, mais Aléa, presque Jacta Est, là, comme on dit au début des Astérix. Là. C'est
pas bien, écoute,
le sort en est presque jeté là, pour la traduction très libre, très, très libre.
Non, mais c'est exactement ça. C'est que sera, sera, Aléa, Jacta Est. C'est exactement ça. Maintenant, comment deviner... le geste de l'électeur, puis après, bien évidemment des grands électeurs, mais ça, c'est le système. Là. Mm. Mais comment deviner ce que tu fais dans l'isoloir? Bien là, à ce moment-là, c'est... Écoute, qui peut prédire cette élection-là? Personne.
C'est tough. Puis tu dis, l'électeur dans l'isoloir, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, ma question de base, c'est, y vas-tu? Tu sais, quand la politique s'échauffe, se radicalise d'un bord et de l'autre,
ça donne-tu le goût de s'impliquer ou de se sauver?
Est-ce que ça te pousse à t'impliquer davantage pour ramener le baromètre à la bonne place, ou tu fais juste te dire, hey, la politique, c'est plus pour moi, puis je reste chez nous, puis qu'il s'arrange
moi,
avec les niaiseries? Je sais pas.
Ben, je sais pas. J'espère, en tout cas, que ce n'est pas ta deuxième observation.
Ouais.
Parce que si on en est rendu là, c'est épouvantable. Mm-hmm. Comment avoir confiance dans l'avenir de l'humanité? Qu'est-ce qu'il y a de plus équitable sur cette terre que le droit de vote? Il y a rien de plus équitable. Le droit de vote, c'est au-delà de l'argent, c'est au-delà de la richesse, c'est au-delà... Puis je veux pas embarquer sur des débats, oui, mais les riches manipulent ceci. On comprend tout ça. Là. Puis on comprend aussi qu'il y a des pays où ton droit de vote est symbolique. Mais de temps en temps, il faut revenir au principe un peu naïf. Qu'est-ce qui reste, autre que le droit de vote? C'est comme les gens qui critiquent les maires. Ben moi, je dis souvent, critiquez tant que vous voulez. Quel est le taux moyen d'exercice du vote dans les villes du Québec?
T'as raison.
C'est quoi, Véro? C'est même pas 30%?
On est entre 30 et 40, puis ça varie selon les municipalités. Il y a beaucoup de municipalités où on y va par acclamation, parce qu'il n'y a même plus de gens qui veulent s'engager
c'est vrai,
là-dedans.
C'est
là.
Vrai.
Tu sais, Lynn, dans Westmount, là, il y a un tandem, mais vraiment, j'avais envie d'essayer de les contacter pour les féliciter. Eux autres, ils se présentent aux élections scolaires.
Oh, mon Dieu!
Une institution que bien des gens trouvent archaïque, mais je partirai pas le débat. Mais ils ont au moins la décence et le respect de cette institution pour avoir leur... Bien sûr qu'ils veulent gagner. mais ils ont mis leurs petits panneaux sur des très modestes, sur des poteaux d'électricité.
Old school.
Exactement. Puis voici nos coordonnées, si vous voulez connaître notre programme, puis notre vision, puis notre... Et je me suis dit, bon, ben coudonc, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Ça va être un taux de vote de combien? Ça va être absolument risible, probablement, et ridicule. Alors, moi, pour moi, dans les grands soucis de l'avenir de l'humanité, c'est celui-là. La démocratie, c'est un beau principe, on est tous pour la vertu. Mais comment tu l'exerces, ta démocratie? Ouais. Et tu peux la vouloir, mais si tu n'es pas prête à faire ce qu'il faut pour l'exercer et la maintenir, ta démocratie, ben, c'est ton problème, chose.
Pour reprendre les mots d'esprit d'un entraîneur de hockey que j'aime beaucoup, j'espère que les Américains se vomiront pas dessus en troisième période.
Pierre. Denis, je sais. J'étais tellement sûr. J'étais tellement sûr qu'avant qu'on se quitte...
Je te la gardais pour la fin.
T'allais ramener quelque chose. J'ai dit, ça peut pas être le mix. Le mix, c'est déjà dépassé. Alors,
t'as comme ta carte de bingo avant nos chroniques avec qu'est-ce que Denis pourrait bien me sortir.
Si Martin Saint-Louis perd sa job, vous allez en perdre un bon.
Mais écoute, mais qu'est-ce que tu veux? Martin, moi, je l'aime. Martin Saint-Louis, je l'aime à cause de ça.
Ouais.
Parce que c'est sûr que Chantal a dû se dire après, oh mon Dieu. Ouais. Tu sais, Martin,
ça va nous
qu'est-ce
suivre.
Que tu viens de dire là? Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Hey, as-tu entendu le coach québécois là, qui
en France? Qui...
On l'a fait jouer hier. On l'a fait jouer hier.
Hey, écoute, c'est pas mal pire qu'on s'est vomi dessus.
La différence, c'est que là-bas, ils comprenaient pas.
Tu l'as joué intégral?
Avec. Non, ben, on avait deux versions, puis on a fait un conciliabule, puis on s'est dit qu'il était plus drôle pas censuré que censuré.
Ben ça, je peux comprendre si tu le prends au deuxième degré, mais c'est quand même... Alors, mais bon, alors, écoutez, on en est là, et puis, bon, le Canadien et les Bruins, oui, c'est un problème, puis oui, la course au titre en F1, mais rappelons-nous aussi que notre planète va vivre un moment extrêmement déterminant mardi. Je pense qu'il faut le suivre, il faut s'y intéresser. Si vous avez des plus jeunes, moi, je me rappellerai toujours... une élection fédérale, j'essaie de me rappeler laquelle. Michel était toute jeune, j'avais dit, ben toute jeune, était ado, là, et j'avais dit, Michel, tu t'en viens chez moi ce soir, on regarde ça ensemble.
Mm.
Puis, et elle avait été passionnée parce que j'en connais un petit peu, puis j'y avais appris différentes choses. Alors, je vous invite à le faire parce que ça aussi, il faut mettre nos jeunes dans le coup. Si on les met jamais dans le coup, puis on les laisse sur leur téléphone, puis sur leur tablette, parfois, les papas, les mamans puis les papas, c'est la meilleure source d'information. Hein.
C'est eux autres la suite.
Pas parfois,
hein?
Ben souvent, oui. C'est la meilleure source d'information.
Puis, concernant la démocratie, Pierre, là, les journées de vote, c'est important. Il y a deux choses un jour de vote. Il y a deux déguisements qu'il ne faut pas que tu te déguises. Il ne faut pas que tu te déguises en fantôme, Pierre. Il ne faut pas que tu te déguises en bébé non plus qui chie dans le culotte. C'est ça que je veux
dire. Écoute, tu es après devancer Martin Saint-Louis pas mal dans tes déclarations. Là.
J'aimerais bien ça qu'il reprenne, celle-là.
Bon, ça a l'air que tu ne seras pas là vendredi prochain.
Non, on est parti pour une petite semaine.
Denis se relâche. Est en relâche.
un petit peu des deux.
Bon, ben écoute, bonne relâche, mon cher Denis.
Merci
tu
beaucoup.
Tu sais quoi? J'ai déjà une date avec Véro. Bonjour. Vendredi prochain.
Bon.
On a réglé ça tantôt. Je pense que Max va être là aussi.
Oui,
c'est le type d'infidélité que je tolère, Pierre.
Rien contre toi, Max, mais je préfère garder dans ma tête que j'ai une date avec Véro.
C'est bien correct.
Hey, Pierre.
Bonne fin de semaine, puis on s'en parle
salut.
Bientôt.
Ouais, profitez-en bien.
Bon week-end.
Bye-bye.
N'oubliez pas de reculer l'horloge si vous voulez une heure de sommeil de plus.
On n'a plus le choix,
c'est
je pense.
C'est peut-être la dernière fois qu'on le fait. En plus, profitons-en. Hein? Oui.
Profitons-en et dormons.
Salut Pierre.
Bye.
Salut.
16h39, notre ami Pierre Houde, donc, qui sera d'office pour le Grand Prix du Brésil toute la fin de semaine du côté de RDS. Évidemment, oui, je sais, Max, c'est l'enfer dans la circulation présentement.
Oui, il y avait un accident, là. Semble-t-il que c'est terminé, mais il y a des répercussions. Capitale Ouest, hauteur boulevard Pierre Bertrand, il y avait une voie de bloquée quand ça s'est terminé, mais au départ, c'était plus qu'une voie de bloquée. Fait que, bref, Capitale Ouest, là, un bon bordel présentement, je vous dirais, entre Laurentienne et ça va jusqu'à l'autre bord de Beau-Royal. L'affaire, c'est qu'en même temps, on a aussi un accident Capitale
est, pas mal à la même place, hauteur Laurentienne, voie de gauche bloquée, voie du centre partiellement entravée, ce qui fait que Capitale-Est, c'est un bordel qui commence encore une fois. En fait, c'est ça. Ça commence à se faire sentir à la hauteur du boulevard Neuvial, puis ça reste très tough jusqu'à la hauteur de Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord vers Laurentienne, il y a des répercussions aussi parce que c'est bouché, fait que là, le monde ne peut pas embarquer sur Capitale-Est. Bon. Fait que ça fait que sur Robert Bourassa nord, c'est tough. Accès au pont Pierre-Laporte, là, c'est ça l'affaire, Denis, c'est qu'il y avait aussi une panne sur le pont Pierre-Laporte, direction nord, au milieu du tablier.
Un vendredi habituel, là.
Fait que dans les deux directions, là, présentement, pour l'accès au pont Pierre-Laporte, il y a quand même de l'attente. 20 directions ouest à la hauteur de Chemin des Îles, il y a un ralentissement aussi. C'est pas mal, ça. Présentement, Capitale, là, si vous pouvez éviter, c'est quelque chose que je vous conseillerais chaleureusement.
J'essaie de retrouver notre ami entraîneur québécois du côté de l'Europe, là, pour les gens qui ne l'ont pas entendu. Je ne sais pas si tu es capable de mettre la main là-dessus rapidement, juste avant d'aller à la pause. Je suis en train d'essayer de remonter notre conversation pour le trouver.
On parle beaucoup là-dedans.
Oui.
C'est tout pertinent.
OK, je l'ai. Il est ici. Je vais nous cliquer ça. Quelques instants de patience. Donc, c'est un entraîneur québécois qui coach du côté de la France.
La Ligue Magnus.
Oui, et je pense qu'il n'était pas content des efforts de son équipe. C'est bien ça?
Ça ressemble à ça.
Pas content.
Une couple se sont déguisés en fantômes. On les a pas vus. Des fantômes. Il y en a d'autres qui sont déguisés en bébés. Il y avait des couches dans leur culotte tout le long de la soirée. C'est le deuxième costume qu'on a eu. Des fantômes puis des bébés qui chiaient dans les culottes parce qu'ils avaient peur. C'est incroyable, là. La peur était là, ce soir, là. Hein?
Imagine-toi.
Une couple se sont déguisés en fantômes.
Imagine-toi que Martin Saint-Louis, après la défaite hier, il arrive puis il parle de fantômes puis de bébés qui chient dans le culotte.
Non, c'est juste vomi dessus.
On aurait eu de fun. Non, ils se sont juste vomi dessus un peu. Hey, on s'arrête quelques instants puis on vient, ce sera pas long.
La circulation,